Alors, bienvenue à tous et à toutes et bienvenue à toutes les deux. Nous sommes en direct du festival Figuré à l'Espace Bonnefoy le samedi 19 octobre 2019 et je reçois Anne et Camille qui vont se présenter rapidement. Et puis alors, l'idée de cette interview ping-pong, c'est que vous ne connaissez pas le travail l'une de l'autre, donc on va le découvrir en direct lors de cette interview en essayant de décrire le mieux possible, mais sachant que c'est de la radio, pour parler de graphisme, c'est toujours un petit peu... Voilà. Allez, je te laisse te présenter.
Bonjour, donc moi c'est Anne Desrivières, je suis graphiste indépendante depuis 12 ans maintenant à peu près. Et à côté de cette pratique de commande, j'ai une pratique à compte d'auteur, livres graphiques, affiches et des choses comme ça. Voilà.
Bonjour, moi c'est Camille Laforcenet, du coup je suis artiste, dessinatrice, sérigraphe. Ça fait 4-5 ans que je pratique ça. Et donc, j'ai une technique, une pratique liée aux techniques d'impression, donc de la sérigraphie, de la gravure et de la pratique du dessin en parallèle.
Alors, du coup, qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui, chacune sur vos stands respectifs? Vous avez chacune un stand?
Moi, j'ai un stand, que je partage avec deux autres artistes, Eddie Mercier et Junie Brifaz, qui sont aussi dessinatrices et liées aussi aux techniques d'impression. Et moi, je présente quelques dessins originaux, mais principalement des sérigraphies et des gravures. Donc, des reproductions, des œuvres reproduites, quoi.
Et moi, j'ai aussi mon stand où j'ai, pareil, des sérigraphies et puis des petites éditions. Un livre que je viens de sortir, là, qui est imprimé en risographie. Donc, pas mal d'éditions dessinées, voilà.
Alors ici au Festival Figuré, il y a tout un tas de techniques de reproduction à petite échelle qui se sont présentées. La risographie, ça consiste en quoi?
Alors,
ce sujet,
ouais.
Je te laisse faire.
Alors la risographie, pour le faire très vulgairement peut-être, une espèce de grosse photocopieuse avec des tambours de différentes couleurs qui permettent d'imprimer en ton direct des couleurs fluo, du rose fluo, enfin pas que du fluo, hein, mais voilà, ça permet d'avoir des couleurs très vives et très franches.
Ça coûte pas cher comme type d'impression.
Et ça coûte pas cher, ouais.
Donc ça permet de faire aussi des petites éditions, enfin petites éditions dans le sens sans passer par des imprimeurs. Où pour avoir ce type de couleur, il faut imprimer en des milliers d'exemplaires. Là, on peut faire des micro-éditions, justement. Et si je me trompe,
d'imprimer en petite quantité par rapport effectivement à des gros imprimeurs, ouais, c'est l'intérêt.
Mais la machine a l'air énorme, telle que vous la décrivez.
Une photocopieuse.
Ah non, d'accord.
Ouais. Non, justement, c'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Il y a plein de collectifs qui ont des machines chez eux.
Ça a pris. Pas mal d'ampleur, en tout cas lié au milieu artistique et graphique récemment, mais en fait c'était présent dans les lycées, les collèges, parce que c'était des imprimantes vraiment pas chères en fait au tirage. Du coup, y en a plein de récup. Voilà, la CGT, tous les syndicats, non c'est vrai.
D'accord, mais elle a quelque chose de particulier
Un grain, ouais, ça donne un grain, une trame et une matière, quoi.
Ouais, quelque chose d'assez, un rendu assez passé. Mm-hmm. Souvent, ça se fait sur des papiers qui eux-mêmes ont un toucher assez agréable, des papiers bouffants ou offset, donc ils sont assez doux, qui ont un petit grain. Et l'encre, elle est absorbée un peu par ce papier. Donc, il y a quelque chose de passé. Et en même temps, il y a ces couleurs vives qui viennent jouer là-dessus. Donc, le mélange des deux est assez beau.
Et justement, quand vous en parlez, on sent qu'il y a une passion, un goût pour peut-être le papier, le support et tout ça. Comment ça s'exprime? Est-ce que vous êtes du style à ouvrir un livre et le sentir ou caresser le papier ou des choses comme ça, un rapport très presque sensuel avec le papier? Comment ça vient en fait, le fait de se dire « Ah bah tiens, moi j'ai vraiment envie de réfléchir à l'impression, à travailler sur ce support-là »
Comment ça vient? Toucher le papier, oui, ça carrément, le sentir assez peu, finalement.
Ouais, moi pareil.
Ah ouais, alors moi, je dois être une lectrice, donc du coup, je sens le renifle les livres que je vais.
Je ne le goûte pas non plus.
Il y en a qui le font.
Voilà. Et après, comment ça vient? Non, je pensais au cours des études, déjà, où on est confronté à ce genre de problématiques, de choix, et puis. Quand on veut imprimer un objet, que ce soit une affiche ou un livre, et ben forcément, c'est pas que le dessin qu'on va apposer dessus, enfin l'image, c'est toutes ces questions-là, c'est quelle impression, quel papier, quelle reliure pour un livre.
Et voilà. La pratique de l'impression, ou technique d'impression, au fur et à mesure, en fait, on se rend compte de la différence de qualité qu'il peut y avoir selon le papier qu'on utilise. Du coup, ça fait, on se rend, même si au début, on n'avait pas forcément cette attention-là ou cette passion-là pour ce matériau, au fur et à mesure, on devient un peu des nerds du papier parce qu'on voit les différences selon comment on imprime en sérigraphie. Moi, je préfère les papiers lisses où je vais aller chercher certains types de papiers, en gravure d'autres. Et voilà, ça fait partie de nos outils au final. Au bout d'un moment, le papier, ça fait partie des choses qui participent pleinement à l'œuvre ou au produit fini. Donc, du coup, on y porte aussi une attention, je pense.
Réflexion qui n'arrive pas forcément dès le départ, en fait, de ce qu'on sent.
Oui, en tout cas, pour moi, disons que j'ai une pratique. J'ai pas fait d'études spécifiquement artistiques. Bien que proche quand même de ces pratiques-là, mais du coup, comme j'ai eu une démarche plutôt personnelle au début, un peu empirique, quoi, de pratique artistique que je développais moi, on ne me l'a pas dit, j'y ai pas pensé tout de suite, mais au fur et à mesure de pratiquer certaines techniques, par la force des choses, en faisant, il y a plein de choses qu'on apprend comme ça, quoi, et c'est d'ailleurs assez bien.
Ouais. Vous êtes intéressé aussi aux techniques un peu plus anciennes, peut-être de gravure ou d'impression à l'eau forte ou des choses comme ça?
Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer quand j'étais aux Beaux-Arts. Il y avait des ateliers, donc voilà, j'ai testé, mais ça s'est arrêté là.
Moi, je pratique un peu. Je pratique la gravure sur métal. J'ai pris des cours dans un atelier à Toulouse qui est l'atelier de la main gauche. Et du coup, ouais, c'est de la gravure eau forte, des aquatintes, des morsures, ce qu'on appelle les morsures chimiques ou les morsures directes aussi, donc on peut travailler la matière avec des pointes aussi en métal, mais donc ça fait partie aussi des choses que je travaille. Après, c'est des ateliers où pour travailler ces techniques là il faut avoir de l'espace, il faut avoir plein d'outils spécifiques, donc c'est pas forcément évident à mettre en place chez soi, mais
et oui, c'est ça aussi, c'est ouais, que voilà. est-ce que ce genre de techniques d'impression, on peut les reproduire chez soi? Certaines oui, par exemple la sérigraphie, mais dans tous les cas il faut de la place, en fait, c'est ça, hein.
Faut soit de la place, soit des outils, soit les deux, enfin ça peut. En plus, selon ces techniques, que ce soit la sérigraphie ou la gravure, peut y avoir des éléments toxiques ou qu'on n'a pas forcément envie de mêler à sa salle de bain ou à sa cuisine, ou voilà. Après, on peut le faire, mais ceci dit, il s'est développé des techniques de gravure sur Tetra Pak, de choses qui sont moins, qui durent moins dans le temps, mais qui sont liées au mouvement de récupération aussi, hein, donc de récup de carton, donc ça, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut inventer aussi, qui sont moins qui sont plus adaptables, on va dire, à travailler chez soi. Après, ça, c'est vraiment pas les mêmes résultats non plus. C'est pas des remplacements pour autant, quoi. Mais...
Donc là, on a pas mal parlé de techniques d'impression, mais revenons un peu sur vos travaux respectifs. Donc, il y a donc ces couleurs flashy, mais comment est-ce que tu pourrais décrire, toi, ton travail? C'est pas évident, hein, la radio, hein, c'est un exercice de style. Hein.
C'est pas évident. Alors déjà, dans le fond, moi, je suis souvent sur des rapports entre images et textes. Je travaille beaucoup à partir de témoignages. Là, justement, le livre que j'ai amené, là, c'est à partir du journal de bord que mon grand-père a tenu pendant la guerre. Donc, partant de là, j'ai pris des extraits et ensuite, je m'amuse à... Je rebondis par rapport au texte. Donc, je suis dans un jeu d'aller-retour. Mon dessin, il vient... créer un troisième sens par rapport au texte. Soit ça devient ironique, soit ça va dans le sens de la phrase. Donc déjà, j'ai souvent ce genre de choses qui se mettent en place. Et ensuite, en termes de dessin, je suis un dessin très simple, assez minimaliste. C'est difficile à décrire.
Non, mais déjà...
Je t'écoute.
Je rappelle que vous ne connaissez pas le travail l'une de l'autre. Non, donc ouais. Voilà, en plus, ce sera l'occasion d'aller le découvrir. Et on invite évidemment les auditeurs à venir découvrir le travail à l'espace Bonnefoy. Et du coup, c'était pas... Quand tu es tombé sur... Tu savais que ce document existait, ce journal de bord?
Non.
Ou ça a été une surprise?
En fait, c'est l'année où Tardi a sorti son livre sur le journal de son père. Je suis allée voir ma grand-mère et je lui ai demandé si par hasard, papy n'aurait pas fait un carnet comme ça. Et elle m'a dit, si, bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai eu.
Et tu avais l'idée de l'illustrer ou c'est l'idée venue après?
Je me suis dit que forcément, je voulais en faire quelque chose. Ensuite, je l'ai lu. Et là, j'ai été d'abord un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc qui décrive la guerre, je ne sais pas, pleine d'action. Et en fait, il ne se passait rien. C'était le début de la guerre. Ils étaient en train d'attendre. Et voilà, il m'a fallu un peu de temps pour... Mais je savais que je voulais en faire quelque chose, ouais. Voilà. Au début, je voulais en faire des affiches. Puis c'est une amie qui m'a dit, mais n'importe quoi.
Il y a un livre derrière ça.
C'est ça. Elle voyait mes premiers carnets de croquis. Puis elle me disait, non, là, tu es en train de faire un truc qui se passe dans la durée. Donc, il y a une narration, tu ne peux pas en faire des affiches. Mmh. Donc, voilà, j'étais repartie pour 3 ans de travail.
Et oui, parce que c'est un très long travail. Ouais.
C'est ça. Mmh.
Et du coup, si toi, tu peux nous faire le même exercice d'écrire un peu ce que tu présentes.
Je ne sais pas si ça va décrire complètement ce que je présente là aujourd'hui, mais ma pratique artistique est vraiment liée à mes convictions politiques, féministes. Et donc, un des thèmes que j'explore depuis un moment, c'est la question de la représentation des corps dits féminins dans l'art. Et comment est-ce que moi, en tant qu'artiste, je me positionne sur ça? Et donc, une des pratiques que j'ai, donc, qui est pas, que je ne présente pas là, mais bon, dont je parle quand même, qui est une pratique de dessin, donc de recherche autour de représenter ses corps, et qui est venue sur l'idée de me représenter moi, en fait, de remettre au centre le choix. Je l'exprime très mal aujourd'hui. Disons que, en fait, voilà, je fais des autoportraits nus parce que je choisis moi comment me représenter. Et c'est des autoportraits sans miroir, en fait. Donc, je montre ce que je vois, moi, de mon corps, en fait. Donc, ça va être vraiment des vues, voilà, comme ça. Je dessine sans miroir, sans photo, et j'essaye de montrer qu'en fait, il y a une possibilité de changer notre regard sur les corps, en général, et a fortiori sur les corps féminins, qui sont souvent mis à distance, et on va dire, pour faire bref, sexualisés. Et du coup, voilà, ça, c'est une partie assez centrale de mon travail que j'expose en ce moment... dans le lieu d'une autre artiste qui est là aussi, qui est Anaïs Barachina, qui a un lieu à l'Onaguet qui s'appelle la Muse en Goyette. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de ma pratique, enfin, c'est ce qui m'a menée à dessiner en fait, et c'est un peu ce qui m'a motivée aussi. Et voilà, après j'ai d'autres, je dessine d'autres choses et je produis d'autres choses autour de la sérigraphie et de la gravure, mais voilà. Principalement, j'ai envie de parler de ça.
Très bien. Et du coup, où est-ce qu'on peut... Alors, là, vous exposez pendant 2 jours le temps du festival figuré. Et après, donc là, j'ai compris que toi, tu as une exposition de quand à quand à la Muse en Goguette ?
Jusqu'au 10 novembre. Et du coup, le dimanche 10 novembre, on fait un dévernissage. Voilà. Donc, ce sera à partir de 17h là-bas. Et ouais, c'est à l'Onaguet, donc c'est facile à trouver sur les internets.
La Muse en Goguette, super ouais. Lieu d'expo. Et toi, où est-ce qu'on peut retrouver ou découvrir ton livre ?
En ce moment, alors mon livre, il est dans des librairies. Il y a 4 librairies à Toulouse. Il y a L'Autre Rive, Terra Nova, Ombre Blanche et Floury. Après, j'ai une partie de mon travail affiche et les cartes postales que j'ai fait par rapport à ce livre qui sont à la boutique Aux Arts du Jour. Et le 28 novembre, si je ne dis pas de bêtises, on fait le lancement, la sortie du livre dans la librairie L'Autre Rive.
Très bien, voilà. Qui se trouve, il me semble, à Saint-Cyprien.
Exactement.
Et site internet ou juste rappeler votre nom d'artiste pour qu'on puisse vous retrouver après.
Moi, c'est Camille Laforcenet, du coup, sur Instagram ou Facebook pour l'instant. Site internet un jour.
Très bien.
Et moi, c'est Anne Desrivières. Donc, pareil, Instagram, Facebook et internet, c'est du sel dans ma piscine.
Ok, voilà. Super. Merci beaucoup pour cette interview ping-pong. Merci. Et on vous retrouve sur votre stand pendant tout le temps du festival.
Merci.